J'ai peut-être commencé avec Pierre Lagrange pour deux raisons. D'abord, ce qui est chercheur et qu'il a beaucoup travaillé sur les ovnis et sur l'ufologie. Et on va pouvoir se poser la question un petit peu de est-ce qu'on peut se protéger de quelque chose qui finalement n'existe pas, ou tout du moins dont on n'a pas la preuve que ça existe. Donc il y a une notion là-dedans où autant on peut assez bien se protéger d'une armée qui arrive, c'est concret, autant de quelque chose, c'est plutôt de la rumeur. Et puis la deuxième chose dont je voulais parler avec lui, c'est il vient de sortir un bouquin sur Orson Welles, et on verra que finalement les choses ne sont pas si claires. Vous savez, c'est cette émission de radio où il a annoncé l'arrivée des extraterrestres. Tous les livres d'histoire nous disent qu'il y a une grosse panique dans les rues, mais a priori, c'est pas si simple. Alors la première question, c'est justement sur cette histoire d'ufologie. Est-ce qu'on peut se protéger de quelque chose qui n'est pas matériel comme ça ?
Merci pour la question, parce qu'en fait, la question des ovnis est intéressante, parce qu'évidemment, spontanément, on a tendance à prendre le sujet en disant on va étudier une fausse croyance, donc quelque chose auquel les gens adhèrent, mais qui n'existe pas. Mais je pense que justement, l'OVNI, c'est un peu comme beaucoup d'objets dont on discute dans nos sociétés, liés aux technologies, aux sciences et tout. Finalement, on ne sait pas trop sur quel niveau ils existent. Aujourd'hui, on parle beaucoup de principes de précaution, de risques technologiques et tout. Alors, c'est clair que notre histoire, les dernières décennies, nous ont montré qu'on avait sous-estimé beaucoup de risques liés aux technologies, mais la caractéristique de beaucoup de ces êtres, les OGM, tout ce qui est lié aux expérimentations nucléaires, la médecine, la biologie, tout ça, on a énormément de mal à évaluer la liste des risques qui est accrochée à beaucoup de ces êtres. Donc ça rejoint un peu la question des ovnis, dans la mesure où on a comme ça quelque chose dont on ne sait pas trop sur quel statut on est. Des gens disent qu'ils voient des choses, après il y a tout un tas de, je dirais, de cosmogonies qui vont, de visions du monde qui vont se greffer dessus. Certains pensent que c'est des extraterrestres. Il y en a même qui pensent que ce sont simplement des mythologies et tout. Justement, comme le débat est permanent sur qu'est-ce que c'est, est-ce que ça existe, quelles sont les preuves et tout, avec une espèce de vision assez simplifiée de l'argumentation de la preuve scientifique, en termes de ça existe ou ça n'existe pas. En science, justement, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc ça pose vraiment le problème de comment est-ce qu'on évalue les risques dans la mesure où on est en même temps en train d'essayer d'évaluer l'existence même de l'objet. Et je pense que dans la société technologique actuelle, c'est un problème qui se pose, on le voit avec l'histoire de la grippe. On a pris énormément de précautions face à cette grippe et on voit aujourd'hui naître des critiques dans la presse sur est-ce qu'on n'en a pas trop fait. Oui, mais justement, si on ne l'avait pas fait, est-ce que les critiques inverses ne s'exprimeraient pas ? Donc, il y a vraiment un gros problème chaque fois qui est d'estimer l'importance du risque. Alors, justement, l'histoire d'Orson Welles est intéressante comme illustration de ce genre d'histoire, parce que l'affaire. Donc, Orson Welles, c'est en 1938, le 30 octobre, Halloween 1938. Chaque semaine, il animait, il faisait une pièce radiophonique sur CBS. Et cette semaine-là, il décide d'adapter à la radio La guerre des mondes de Herbert George Wells, le roman de 1898, qui raconte qu'il y a la première grande évasion de Martiens, l'arrivée des Martiens sur Terre. Et Wells l'adapte sous forme de bulletin radiophonique, et le lendemain, la presse est plein de titres sur le fait que les Américains ont paniqué en écoutant l'émission parce qu'ils l'ont pris au sérieux. Et au cours des décennies qui vont suivre, les comptes rendus vont se multiplier, surtout à partir du moment où Orson Welles devient une figure, avec Citizen Kane et tout, extrêmement connu de l'histoire du cinéma. Et on va rappeler sans cesse cette histoire. Il va participer lui-même, d'ailleurs, il va répondre souvent à des questions là-dessus. Et donc on reste avec l'idée d'une panique gigantesque de gens qui se sont jetés par les fenêtres, qui se sont enfuis dans les montagnes. On en aurait retrouvé des mois plus tard, qui se cachaient toujours. Et quand on se focalise sur les comptes rendus du moment qui sont parus à la suite, ou l'enquête sociologique, il y a une enquête sociologique qui a été faite dans les semaines qui ont suivi et qui a été publiée en 1940 par un groupe de l'université de Princeton, on se rend compte qu'en fait, le phénomène, c'est moins la croyance, des prétendues croyances des auditeurs dans l'histoire de l'arrivée des Martiens, que finalement tout ce qui s'est greffé sur l'existence d'une prétendue panique. C'est-à-dire que la panique a été largement surestimée, et quand on lit les comptes rendus au fil des décennies, on se rend compte qu'on nous rajoute des accidents, on nous rajoute des suicides qu'il n'y a jamais eu. on nous rajoute des procès. Enfin, il y a tout un tas de phénomènes qui est né au fur et à mesure de quand on raconte, au fur et à mesure où on racontait l'histoire. Donc, il y a une vraie rumeur intellectuelle et savante qui s'est greffée sur la prétendue peur populaire. Et le thème de la peur populaire est un thème classique de l'intelligentsia dans la volonté de se séparer justement du peuple. Les gens croient n'importe quoi, mais il y a quand même quelques esprits éclairés pour garder leur raison. Donc là aussi, on est dans le... Finalement, qu'est-ce qu'il faut analyser ? Et dans ce genre d'histoire, il ne faut pas juste se contenter effectivement d'analyser la prétendue croyance populaire, parce que les anthropologues sont revenus depuis longtemps de l'idée qu'il y aurait de la croyance populaire, mais également s'intéresser à tout le scepticisme et tout ce qui consiste à inventer ces croyances populaires.
Voilà. Le thème des ovnis, c'est quoi ? C'est une peur du futur, une peur de la technologie ? Ou toujours cette histoire de croyances populaires ?
Non, c'est vraiment une fascination pour la science. Je pense que ça participe à un débat sur la place de la science dans la société. D'abord, bon, le phénomène de base, c'est que des gens observent des choses. Ça, n'y a pas de questionnement là-dessus. Il y a des millions de témoignages qui se sont accumulés depuis 1947. Le phénomène a été lancé en 1947 aux États-Unis. Et donc des débats se sont créés, parfois des commissions scientifiques se sont emparées aux États-Unis dans les années 60. En France, il y a un service au CNES, au Centre Spatial, qui étudie le sujet. Et donc ça participe vraiment d'un questionnement partagé entre les scientifiques, les représentants du débat scientifique et le public sur la manière dont, qu'est-ce que c'est qu'une preuve scientifique ? À partir de quel moment le public peut participer en apportant, parce que l'idée que des gens voient des phénomènes qui échapperaient aux scientifiques, c'est lourd de conséquences potentiellement. C'est-à-dire que depuis 60 ans, les scientifiques passeraient systématiquement à côté de quelque chose et les gens l'auraient vu. Alors, ça renvoie à l'histoire des météorites. Enfin, il y a tout un tas d'idées, de mythes scientifiques comme ça sur des choses qui ont été repérées, dont les savants refusaient l'existence. Et ça participe à ce débat sur la science qui est très présent dans la société et sur la façon dont le public se raccroche ou pas à ces discussions.
Je voudrais passer la parole à Norman Spinrad parce que dans Il est parmi nous, il y a un des personnages qui dit venir du futur et où on joue sur l'ambiguïté. Est-ce qu'il vient vraiment du futur ou est-ce que simplement il est fou ?
Non, ça reste ambigué, c'est le bout. C'est un peu de la même idée. Il est parmi nous. La chose importante, c'est pas si Ralph est un vrai comédien dans le futur, ou un comédien fou, ou un comédien cynique, mais la chose qui est importante, il a gagné l'accès à la télé. Il a fait un effet du mythe, un mythe du futur bien, un mythe. Qui est le premier, et puis un mythe futur demi-utopien. Et c'est comme ça, c'est la question de. C'est un roman. C'est un meta-science fiction qui en dit de l'équipe de traduction, Sylvie Denis. Un meta-science fiction. Mais aussi, pour moi, c'est en espèce aussi, c'est l'histoire de le roman, de travail de roman, c'est un peu intéressant pour ça, parce qu'il commence avec de dessiner, d'écrire un livre, pas de fiction, de la crise de transformation, qui était une chose, à mon avis, une réelle chose. Pour présenter ça, pour présenter la possibilité d'éviter ça, tout ça. Et je n'ai jamais trouvé un éditeur pour ça. Pas mort, mais une animation suspendée pendant, je ne sais pas, 2-3 décennies. Et finalement, un traitement un précis qui je fais comme un discours à Sophia Antiopoulos et j'ai un document et j'essaie de gagner un contrat pour faire le livre par de fiction et mon éditeur à cette époque à Venta Books, Lou Aronic, il dit non, je ne voudrais pas en ça, je voudrais un roman avec le même thème. Et je dis spontané. Ok, je fais ça, mais c'est nécessaire, on fait une comédie. Parce que c'est pas une comédie, c'est trop didactique, c'est comme une utopie, et c'est bullshit comme ça. Et ça, c'est la petite histoire de l'histoire, mais le but est, je reste avec l'idée de faire un changement de la conscience publique moi-même, comme Dexter Lampkin dans le livre. Je ne suis pas Dexter Lampkin, tout le monde m'a dit, vous êtes Dexter Lampkin? Non. Mais l'idée de faire une transformation dans un enseignement de la conscience publique du monde avec un roman reste chez moi. Et le bouteille, comme ça, c'est le mythe, comme le mythe urbain, un mythe. Le mini-arbre, par exemple, j'ai été en sondage il y a quelques années aux États-Unis, que 80% de la public américain croyant dans le Men in Black, le mec en noir. Pourquoi? Deux movies. Vous avez Will Smith, un documentaire de personnes. Oh, yeah, je rencontre le Men in Black, oui. Mais si c'est vrai, c'est pas possible parce qu'on évitait les mémoires. Mais 80% croyant dans le Men in Black. Ok, ça c'est un exemple de. On dit aux États-Unis le mythe urbain. Pourquoi urbain, je ne sais pas. Parce que vous avez aussi les choses avec la vache, les extraterrestres qui ont coupé, je ne sais pas, un côté pour manger ou quoi. Ça, c'est un mythe de pays. Mais la même idée de faire en panique minable pour vendre le journal et tout ça, ou maintenant la télé, c'est pas possible. On fait une éducation, un enseignement de le public de choses qui restent importantes. Et pour cette raison, j'écris un roman comique, mais avec un point vachement sérieux. Utopie, par nature, ipso facto, c'est pas possible, on fait un vrai drame avec une utopie. L'essence d'un drame, c'est un conflit. Et si tout est parfait, c'est pas un conflit. Même une dystopie, c'est pour moi, j'écris. Non, je n'écris pas en vraie dystopie. Par exemple, Bleu comme un orange, c'est un futur après grand problème avec le réchauffage de la planète. Mais pour qui? C'est un autre aspect de le titre de le discours ici. Ça commence, l'idée de faire ça commence, je reste à Paris, à mon appartement à Paris, en plein novembre, c'est froid, c'est gris, merde. Et je crie dans un journal, oh, le réchauffement de la planète sera un totalement désastre. Et je dis, pas ici. Non, alors j'ai imaginé en Paris tropical, parce que j'arrive dans Paris, dans Los Angeles, avec un climat vachement mieux. Alors, ça commence maintenant. Maintenant, le passage de la mer Arctique commence à marche. Et c'est bien pour le commerce de le bateau, mais mauvais pour le ours blanc. Et ça, c'est la réalité, je crois.
Alors, Fabrice, je voulais parler avec toi plus. Alors, on a de la chance, c'est que nous avons un auteur jeunesse. Et si la science-fiction met souvent en garde contre tout un tas de choses, comme parfois le réchauffement climatique, même si ça induit toute une réflexion, est-ce que cette notion de mise en garde est d'autant plus importante quand on s'adresse à des jeunes lecteurs ?
Oui, alors, il y a une dimension un petit peu pédagogique là-dedans. C'est-à-dire, quand on écrit de la science-fiction pour la jeunesse, La science-fiction est déjà moins populaire que la fantasy. En revanche, c'est une littérature qui va permettre, qui va être étudiée souvent dans les. Moi, j'écris plutôt pour les adolescents. En l'occurrence, donc, ça va être étudié au collège, au lycée, par des professeurs qui vont faire lire les romans à leurs élèves, en espérant susciter chez eux, une réflexion. L'avantage de la science-fiction, c'est qu'en parlant de l'avenir, on parle du présent. Donc forcément, quand on parle des dommages, par exemple, qui sont infligés à la Terre dans une fiction qui se passerait dans un siècle où le niveau des eaux a monté, où une épidémie a ravagé la moitié du globe, etc., c'est qu'on est déjà en train de parler de ce qui se passe maintenant, de ce qui peut se passer maintenant. Il y a un deuxième point, c'est l'intitulé du débat « Peut-on se protéger de tout ?» Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que non. Donc, en revanche, le matériau fictionnel que ça peut générer, lui, il est intéressant parce qu'on peut mettre en scène des personnages ou des sociétés qui, malgré tout, essayent de se protéger de tout contre tout bon sens. C'est des choses qu'on peut voir dans notre société aujourd'hui. Il y a une obsession sécuritaire qui est en train de monter. C'est-à-dire qu'on essaye de tout de réduire les choses au risque zéro, quoi. Moi, bénévolement, je travaille un peu avec des gens qui s'occupent du sida. On en parlait tout à l'heure. Et c'est assez, j'allais dire drôle, mais en vérité c'est assez tragique de voir à quel point maintenant chez les gens, et je pense que c'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur, les gens voient du risque partout. Et inversement, ils voudraient qu'on puisse leur garantir sur certaines choses une absence totale de risque. Or, le risque fait partie de la vie, hein, donc... on peut pas dire aux gens, on peut raisonner en termes de statistiques, mais c'est pas très parlant. Une personne, elle se prend une météorite sur la tête ou pas, elle est atteinte par le VIH ou pas. On n'est pas contaminé à 0,5% par le virus du sida. Donc ça, c'est des questions philosophiques qu'on peut aborder en littérature jeunesse. Et puis la question doit-on se protéger de tout, elle est aussi très 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 intéressante. Elle permet effectivement d'aborder des thématiques de société sécuritaire. On essaye souvent de schématiser un petit peu les choses. On va pas forcément très très loin dans la complexité quand on est en littérature jeunesse. Disons qu'on fait la même chose qu'en littérature adulte, mais en simplifiant souvent un petit peu, on peut parler, on peut évoquer des sociétés qui ont des obsessions sécuritaires, qui peuvent être obsessions sécuritaires vis-à-vis des maladies, des épidémies, mais vis-à-vis aussi de l'autre. Moi, j'ai un roman dans lequel j'ai mis en scène une ville qui est coupée en deux. On rejette les pauvres de l'autre côté du mur et... pour les gens qui sont du bon côté, on mène une vie où on se protège non seulement des agressions plus ou moins fantasmées qui pourraient survenir de la part des pauvres qui veulent prendre nos richesses, mais aussi on se protège psychologiquement des dommages que pourrait infliger la connaissance de cette pauvreté. C'est-à-dire qu'on se dit, nous, on veut pas le savoir, ça. Voilà. Donc on se protège mentalement, moralement, de façon plus ou moins efficace, en se disant, on rejette les choses mauvaises derrière un mur, ce qui est aussi une allégorie un peu de l'inconscient, quoi, finalement. Hein, on refoule, quoi. C'est le sujet de l'insécurité, de toute façon, il est au cœur de la littérature de science-fiction jeunesse, qui est une littérature... Alors dans la collection pour laquelle moi j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle Autre Monde, chez Mango, pour laquelle j'ai écrit 7 romans. C'est une collection qui a longtemps dirigé, hein, c'est plus le cas maintenant, mais elle a longtemps été dirigée par quelqu'un qui s'appelle Denis Guyot et qui avait pas mal à cœur ces problématiques-là. C'est-à-dire qu'on n'était pas trop dans une science-fiction de space opéra, de conquête des grands espaces. Ça pouvait être ça aussi, mais il y avait aussi beaucoup de romans qui étaient axés sur un futur assez proche pour pouvoir justement développer ces thématiques-là. Ça pourrait aussi nous amener vers une discussion sur l'état de la science-fiction en France aujourd'hui. Je suppose qu'il y aura d'autres débats sur le sujet, mais la façon qu'a la science-fiction, et c'est un débat qui a été aussi lancé à propos d'une récente anthologie qui est sortie, de se rétracter un peu vraiment sur un futur proche et de délaisser justement les utopies space opéra, comme si c'était plus ça le problème aujourd'hui, comme si finalement, en partie depuis le 11 septembre, on se disait ouais d'accord, on pourrait aller sur la Lune ou dans les étoiles, etc. Mais en ce moment, c'est pas le sujet. Il y a des choses plus graves, il y a des choses qui nous menacent directement aujourd'hui et dans le siècle à venir, et donc on va se concentrer sur ces choses-là.
On reparlera peut-être de la gestion du risque et du principe de précaution, mais l'une des questions qu'on se posait en préparation, c'est finalement, si la science-fiction a toujours son rôle de tirer la sonnette d'alarme, est-ce qu'elle le fait peut-être un petit peu trop? Est-ce que la SF met trop en garde ses lecteurs? Alors, Fabrice ou Norman, lequel des deux veut répondre?
Non, je ne la comprends pas exact.
Alors, en fait, est-ce que la science-fiction, à force de mettre beaucoup de mise en garde, est-ce qu'on en fait pas un petit peu trop finalement?
Oui et non. Pour la plupart, ouais, c'est quelque science-fiction, mais pour moi, premier, la science-fiction c'est une espèce de fiction et la chose centrale, à mon avis, est l'histoire, la vraie histoire personnelle, la vraie histoire dramatique, et pas en centre didactique de science-fiction ou de fiction historique ou d'autres formes de histoire. Même à l'autre côté, c'est vrai que une chose peut-être spéciale, pas inhérente. Je ne dis pas qu'autre forme de fiction, c'est impossible de faire ça, mais une chose centrale de la vraie science-fiction, c'est un vrai travail, un vrai œuvre de science-fiction, c'est une histoire de l'interface et le feedback dans le monde intérieur, la conscience humaine de personnages spécifiques et le monde total qui était le surround, la science, la politique, la musique, le sexe, drugs and rock and roll, la cuisine, tout ça. En cet aspect, oui, en effet, la science-fiction et la fiction moderne qui n'évitent pas la question de la relation entre la conscience humaine et le monde extérieur. Pour la plupart, la fiction contemporaine, c'est trop, à mon avis, c'est trop concentré dans l'intérieur, dans la conscience humaine, et rien du tout avec le politique, la puissance médiatique qui est le monde réel en fond, mais la conscience humaine. Alors, c'est pas possible d'écrire en vraie science-fiction sans dire quelque chose dans l'effet dans le monde, dans la conscience humaine. Mais ça marche avec une vraie histoire dramatique et pas totalement didactique. Ok, je dis ça, c'est un programme ici pour faire l'honneur à Aldous Huxley. Mais à mon avis, Brave the World, ça, c'est pas un bon livre de science-fiction. C'est trop didactique, c'est pas personnel, c'est pas. Après Huxley, on a écrit en science-fiction vachement mieux, mais ça c'est un livre fameux, mais c'est, à mon avis, c'est trop didactique. Même ces brackets, vous avez tous les jours en connexion arbitraire, à mon avis, dans ça et le roman de Orwell. Qu'est-ce que c'est le titre en français de ça?
What?
C'est le même titre, un titre stupide, mais ça c'est un vrai roman à mon avis, parce que la question de la société était concentrée dans deux personnages en histoire d'amour qui a été gagnée et qui a été finie. Et, oh, voilà, ça c'est. Je dis, well, ça c'est tout.
Fabrice, même point de vue, est-ce que la science-fiction en fait trop?
Bah, je rejoins un petit peu Norman sur le. De toute façon, il y a une nécessité au niveau de la dramaturgie de raconter plutôt des histoires où les choses se passent mal, parce que sinon on s'ennuie, quoi. Donc, y compris dans les collèges, on va souvent nous dire ah, vous dépeignez une vision sombre de l'humanité. Bon, c'est pas. Moi, je suis pas devin, c'est pas forcément la vision que moi j'ai, mais après, c'est des histoires qui sont intéressantes à raconter, ça c'est sûr. Après, moi, je suis pas sûr que de toute façon, la science-fiction puisse, et que ce soit son rôle, de véritablement mettre en garde, au sens où je suis pas certain que ce soit le médium qui soit le plus approprié. Aujourd'hui, il y a énormément de livres. Déjà pour mettre en garde des gens, il faut que les gens lisent votre livre. Il faudrait qu'ils les lisent à extrêmement grande échelle. Aujourd'hui, les possibilités d'écrire un livre comme 1984 qui toucherait comme ça énormément de lecteurs sur le long terme, moi, elles me paraissent assez réduites. Et si, personnellement, si je veux vraiment mettre en garde les gens contre quelque chose, si j'ai une conviction profonde en disant, aujourd'hui, les choses, elles sont comme ça, et si on continue, eh ben, elles vont devenir comme ceci, et là ça va être très grave pour tout le monde, j'écrirais plutôt un essai argumenté qu'un roman, parce que c'est pas évident qu'on touche forcément les gens avec un roman. Finalement, on peut prendre ça comme simplement une belle histoire. On le voit à Hollywood avec tous les films et catastrophes qu'il peut y avoir, c'est surtout prétexte à une débauche d'effets spéciaux, et ça marche sur le spectateur de façon un peu paradoxale, c'est-à-dire que les gens qui voient ce genre de film ou qui lisent des livres qui dépeignent un univers catastrophique se disent « Ouf, heureusement, c'est pas comme ça » ou « C'est pas encore comme ça ». Voilà. Donc il y a toujours ce côté de la dramaturgie qui est important. Mais moi, je suis pas sûr que si vraiment on veut prévenir l'humanité de quelque chose, la science-fiction, bien sûr, ça touchera toujours quelques personnes, mais c'est... Voilà. D'autre part, il y a des gens qui ont prédit des choses et c'était pas forcément leur but non plus. C'est ça qui est intéressant aussi avec la science-fiction, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on réfléchit sur l'avenir, on est obligé encore une fois de partir du présent et il se peut qu'on tombe juste parfois. Alors ça peut être parfois ça peut être des prédictions agréable, enfin en tout cas positive. On peut prédire par exemple l'avènement du monde des ordinateurs, du virtuel, des voyages dans l'espace. L'histoire de la science-fiction est pleine d'auteurs qui ont comme ça prévu des choses, et parfois on a des auteurs qui sont même pas d'ailleurs considérés forcément comme des auteurs de science-fiction, des gens comme Houellebecq ou Don DeLillo qui ont plus ou moins prédit les attentats islamistes par exemple. En même temps, quand on les interroge là-dessus, évidemment, ils n'ont pas des pouvoirs de devin. Ils sont contentés d'observer le monde tel qu'il était à un moment donné. Et avec une petite extrapolation, sur le lot, il y a forcément des gens qui tombent juste.
Pierre Lange.
Il y avait plusieurs choses sur lesquelles je souhaitais revenir. Norman Spinrad, tout à l'heure, citait ces sondages où 80% des Américains disent croire aux hommes en noir et tout. Il y a quelque chose d'assez paradoxal dans ce... D'abord... Les gens qui acceptent de répondre à des questions sur leurs croyances, c'est très compliqué parce que si on accepte de se poser en croyant, ça veut dire qu'on a déjà une distance par rapport à l'idée de croyance, donc par rapport à ses propres prétendues croyances. Et en plus, sur ces phénomènes, quand on fait des sondages aussi sur est-ce que vous pensez qu'il y a un complot pour cacher la vérité, vous avez 90% de gens qui disent oui. Mais ce qui est tout à fait paradoxal, c'est que si demain on organise une manifestation avec ces, en disant on va réunir ces 80-90%, ça va faire une manifestation monstrueuse, il n'y aura personne dans les rues. Alors que la plupart des questions de société ou autres qui donnent des sondages beaucoup plus mitigés réunissent, elles, des foules importantes. Pour... Donc il y a quelque chose d'assez paradoxal sur tous ces phénomènes. Ensuite, il y a une autre chose sur la notion de risque. Vous évoquiez tout à l'heure le 11 septembre. Et c'est vrai que là, on a vécu un événement qui a totalement transformé tout notre rapport au danger et tout, qui a modifié tous les codes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que c'est en partie à cause de ça qu'on a de tels débats. Et là aussi, il y a une question complexe sur l'idée d'un complot, de tout ce qui est né après ça. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ces théories du complot sur le 11 septembre sont venues redonner la parole alors qu'on était incapable de parler de ces événements sur un autre registre que celui de la compassion. Mais là, on a quelque chose qui est venu se coller alors pour le coup à la science-fiction, au cinéma et tout, en utilisant des codes qui sont ceux de la fiction. Et pour s'incarner dans la réalité, si la veille on était venu dire que le 11 septembre il se passerait ça, personne ne l'aurait cru. C'était juste impossible à croire. C'est Orson Welles en vrai, en fait, cette histoire. Et il y a un dernier aspect qui est avec les questions du changement climatique. Pendant longtemps, la question écologique a été un peu marginale, il faut bien le dire. Et aujourd'hui, elle est devenue centrale. Alors, paradoxalement, parce que la société industrielle, capitaliste, s'en est emparée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous fait des tas de produits qui sont censés sauvegarder la planète ou la préserver et tout, ce qui est une espèce de chose assez cynique dans la mesure où c'est ceux qui sont plus ou moins accusés d'être plus ou moins responsables de ça qui vont venir récupérer en disant « maintenant, on va vivre de façon écologique et tout ». Et la question qui se pose est... qui nous renvoie un peu à d'autres époques que l'on traite souvent sous l'angle de l'histoire, c'est que on se trouve à un moment où on se dit, effectivement, peut-être que notre avenir, de façon globale, est engagé. Parce que si la planète s'emballe, on aura beau faire tout ce qu'on veut, on ne pourra pas l'arrêter. Donc là, il y a l'idée, et jusqu'à quel point est-ce que c'est une croyance à laquelle nous participons ou quelque chose qui va vraiment se passer, c'est extrêmement difficile à dire. Mais on vit avec l'idée d'une série d'événements qui risquent, comme des dominos, de tomber les uns après les autres, si le Gulf Stream s'arrête, si ceci... là, on sera face à une situation où on aura joué avec quelque chose en pensant que la planète était un réservoir dans lequel on pouvait puiser sans fin, et on se rend compte que tout d'un coup, ça produit des conséquences, et on ne peut pas les arrêter. Donc là, on est dans la notion de risque majeur, où c'est plus juste une série de problèmes qui se posent sur des expérimentations technologiques nouvelles, mais quelque chose qui est global et qui est juste impossible à arrêter. On est dans un concept de fin du monde, là, pour le coup.
Et alors, par rapport à des choses comme la grippe, on parlait du principe de précaution. Comment on gère ce genre de choses aujourd'hui?
Là, justement, c'est tout le problème, et comment faut-il gérer ce genre de choses? C'est vrai que les risques, il y en a tout le temps eu, puisque les sociétés humaines ont tout le temps, et la nôtre tout particulièrement, expérimenté des formes nouvelles de présence au monde. Et le monde dans lequel on vit, scientifique et technique, a constitué à peupler le monde d'êtres nouveaux. L'effet scientifique et tous ces êtres technologiques, depuis les portables jusqu'aux centrales nucléaires, qui ont transformé notre société. Donc, du coup, tous ces risques sont nés avec ça. Il y a une époque où le nucléaire, soi-disant, la liste des risques était connue et close. On s'est rendu compte par la suite qu'elle se rallongeait énormément et qu'il y avait plein de risques qu'on n'avait pas prévus. Donc aujourd'hui, on vit avec cette idée qu'on doit essayer d'anticiper sur tous les risques qui vont se poser et dont on ne peut pas faire la liste. Mais par définition, effectivement, vivre dans nos sociétés, c'est accepter une part de risque, accepter une part d'expérimentation et de vivre avec tout un tas d'êtres dont on ne sait pas, y compris nous-mêmes, quelles seront la gamme des comportements qu'ils vont adopter. Quand on voit comment justement le terrorisme fait qu'aujourd'hui on ne peut plus voyager avec un trombone dans un avion, on voit à quel point la liste des risques s'est rallongée. Mais... on va essayer d'anticiper et fatalement on n'anticipera jamais au bon endroit.
Alors, moi j'ai un dernier risque, puisque je viens de le lire pas plus tard qu'hier.
Si vous passez entre 5 et 15 heures devant Internet par jour, si vous avez les yeux secs, des migraines ophtalmiques, eh bien, je vous le dis, vous êtes drogué à Internet et donc il faut faire attention. Voilà, il y aurait 2 millions de Français drogués à Internet aujourd'hui en France. Fabrice et Norman, tout ce qu'on annonce au fur et à mesure dans l'actu, comme ça, en mise en garde et en précaution, c'est des choses dans lesquelles vous pouvez puiser sur vos histoires futures. Il y a téléphone. Attention aux ondes, Norman. Norman Spinrad a un appel. Oui, voilà. Et tant pis pour lui. Est-ce que c'est un matériau sur lequel vous pouvez puiser, tout de moins un matériau d'inspiration, toutes ces mises en garde et ces peurs des nouvelles technologies ou des virus ou du nucléaire?
Autre fois, parce que... the question de risque.
Oui.
Well, autre aspect de question de risque, c'est les certains systèmes, par exemple, par le climat, ouais, peut-être le climat, mais le climat, les températures, le nuage, pas de nuage, tout ça, c'est impossible en faire une prédiction plus de 4 ou 5 jours à l'avance. Et ça, c'est une chose inhérente mathématique, de la mathématique de Carl. Ça, c'est un système chaotique et la meilleure puissance scientifique de le futur de tout le monde, c'est pas possible. On fait en prédiction plus de 5 jours en avance et ça, c'est prouvé par la mathématique. Alors, ça, c'est l'exemple de l'impossibilité d'éviter tout le risque. C'est autre système comme ça, peut-être moins simple. Par exemple, vous avez 130 pays du monde avec le même nombre de gouvernements, de tout ça. C'est pas possible de faire en prédiction sûre et dure de le résultat de l'interaction de tout ça. Même peut-être avec l'effet quelques mille chaînes de télé ou de radio, d'interaction. Ça, c'est beaucoup de choses qui sont chaotique, et le sens mathématique comme ça, pas seulement par métaphore. Et la possibilité d'éviter tous les risques, ça n'existe pas. Mais c'est une excuse, l'autre chose, pour éviter le risque, à mon avis, c'est une excuse pour une certaine forme de fascisme. Parce que quand j'ai lu le titre de cet discours, je me suis dit, oh, peut-être ça c'est une chose dans le. On dit en Angleterre, la société nana, non pas nana, nanny, avec toutes les caméras, de surveillance, tout ça, vous avez, à Monaco, vous avez ça, c'est totalement fou, dans le hub, dans le parc, tout ça, pour éviter le risque. Vous avez dans l'aéroport maintenant aux États-Unis la chose de TSA, de Homeland Security, TSA, ça c'est tough shit, asshole, pour éviter le terrorisme d'avion. Mais pour faire autre chose ici, pour faire en atmosphère. Contre le droit d'homme libéral comme ça, vous avez une excuse, la paranoïa. On crée la paranoïa pour créer un état fasciste. Ça, c'est une bonne méthode pour le fascisme, pour la fascisation d'une société libre et libérale en cet sens. Et vous avez ça aux États-Unis très fort. Vous avez une autre chose avec le foulard et tout ça. Mais ça, c'est stupide aussi. OK, oh, ça c'est un foulard, ou oh, c'est une scarf, ou oh, c'est un chapeau. C'est nécessaire, on a la police de façon qui on fait le réglage spécifique. Donc, ça c'est un foulard, mais avec une autre chose comme ça, ça c'est un scarf. C'est, on fait l'impossibilité d'une loi qui marche. Et l'éviter de risque, l'exagération de ça, l'exagération de, on fait ça pour éviter le risque, ça crée un risque plus réel d'un excès de contrôle social dans un gouvernement ou une église ou un culte ou choses comme ça. Ça, c'est l'Arabie Saoudite et ça, c'est le Taliban et tout ça.
Finalement, on peut se poser la question du risque politique. Tu voulais réagir, Fabrice ?
Moi, je suis assez d'accord. Le matériau intéressant, fictionnel, c'est évidemment c'est le rapport entre la liberté et la sécurité. Il semblerait qu'aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, les gens, s'ils ont à choisir, ils vont quand même préférer la sécurité. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut obtenir d'un peuple avec des arguments de sécurité? Bon, on l'a vu, il y a des peurs par rapport au progrès qui sont des peurs qui ont vraiment des racines psychologiques et certainement sociologiques aussi assez profondes et pas toujours faciles à examiner. Avant, on avait peur, voilà, moi je me souviens, mais mes grands-parents, le four micro-ondes, il fallait pas leur en parler. Bon, il y a eu la pilule après. Il y a toujours parfois un fond de vérité, enfin une inexactitude scientifique. Il y a peut-être eu certaines pilules au tout départ qui étaient pas très bonnes par ailleurs pour la santé. Après, on brode là-dessus. Aux États-Unis, sur le sujet, encore une fois, du sida que je connaissais bien, il y a beaucoup d'associations chrétiennes qui se servent de la peur du sida pour dire, pour en gros, prenez l'abstinence, quoi. C'est-à-dire, bon, ben, les risques, c'est pas très clair, on sait pas trop, le préservatif, ça marche peut-être pas. Bon, le mieux, c'est quand même de pas coucher, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut obtenir d'une population avec la sécurité? Ça, c'est intéressant. En revanche, de l'autre côté du spectre, sur les téléphones portables, où là, c'est difficile de dire qu'il n'y a pas un risque. C'est des choses que peut-être... Il y a un certain nombre de personnes qui ont expérimenté. Réellement, si vous téléphonez 8 heures par jour avec un téléphone portable, il n'y a pas besoin d'être médecin. Vous pouvez expérimenter vous-même que c'est pas très bon. Maintenant, à quel point c'est pas bon? Est-ce que ça met réellement votre santé en danger? On n'en sait rien. Mais en revanche, les études aujourd'hui, qui sont parfois commissionnées par les entreprises elles-mêmes, ça peut prêter à sourire. C'est-à-dire que dans l'autre sens, on peut vous dire non, normalement c'est bon. Bon, voilà. Et on se retrouve dans une espèce de zone de grand flou. Et encore une fois d'approximation, de contre-vérité, le débat aujourd'hui sur le vaccin de la grippe A, c'est aussi un débat sur la paranoïa par rapport au vaccin et une chose sur laquelle on parle pas mal, sur le bénéfice risque bienfait, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens veulent pas se faire vacciner parce que peut-être le vaccin, en tout cas les adjuvants du vaccin de la grippe A, pourraient soit provoquer l'autisme chez certains enfants, soit provoquer des maladies neurologiques. Il y a déjà eu ce débat avec le vaccin contre l'hépatite. Il y a eu effectivement des gens qui ont été atteints de sclérose en plaques, par exemple, après avoir été vaccinés contre l'hépatite. Après, il faut faire très très attention aux chiffres. Hein. C'est quelque chose vraiment où là, il faut des outils statistiques précis et des gens qui arrivent à analyser les chiffres dans un contexte complètement dépassionné, ce qui n'est pas du tout notre cas aujourd'hui. Je veux dire, on entend tout et n'importe quoi sur le vaccin, par exemple pour la grippe A. Ce n'est pas la première fois. Les gens sont dans une sorte de panique très floue. Il y a aussi un rejet
Ça, c'est, je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser au niveau sociologique. C'est-à-dire, je ne veux pas me faire vacciner parce que c'est le gouvernement qui nous le demande, quoi, en gros. Et donc, il y a une sorte de forme de résistance par rapport à ça en disant, on ne sait pas exactement ce que ça fait. En tout cas, c'est louche. Moi, je ne fais pas ce que le gouvernement me demande. Pourquoi ils veulent vacciner tous les gens comme ça, voilà. Tout ça, c'est effectivement des ça peut être des points de départ d'histoire de science-fiction en vertu du principe que le ce qu'on appelle le mur du futur se rapproche de plus en plus quoi du présent.
Alors, on va passer peut-être aux questions. Il nous reste moins d'une dizaine de minutes. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire ? Quelqu'un qui, par exemple, veut pas se faire vacciner contre la grippe A ou une question à poser aux auteurs ? Allez-y. 9 fois 3 fois. Ah mais, vous pouvez. Voilà, nous avons un micro volant éventuellement. Alors, je vais simplement poser une dernière question à Pierre Lagrange. On parlait justement du risque et de l'utilisation politique. Ça, c'est un mythe ? C'est la théorie du complot ou on est pour le coup dans le réel ?
Et on est dans les deux, je dirais. On est forcément dans la réalité, ce qui est. Des phénomènes qui se développent pas mal quand on va dans certains coins du monde, notamment je pense à Dubaï ou des endroits comme ça où vous avez une espèce de le jeu, la société du plaisir est portée à son maximum. Il y a des pistes de ski à Dubaï, enfin des trucs incroyables quand on voit la chaleur qu'il fait et ça va avec une société qui est hyper sécuritaire où on n'avait personne dans les rues qui traîne donc c'est un modèle de société qui peut se développer, c'est-à-dire qu'en échange d'une capacité à avoir les derniers gadgets technologiques, accès à une gamme de jeux tout à fait étendue, la capacité à discuter les systèmes politiques dans lesquels on se trouve est d'autant plus réduite. Et il y a comme ça tout un tas de sociétés en Asie du Sud-Est et tout, au Dubaï ou autre, où se développe ce genre de modèle politique. Donc, on voit tout à fait le risque qu'il y a avec derrière la notion de progrès, qu'est-ce qu'on gagne à être dans un monde où effectivement on peut s'amuser à l'infini, mais on peut juste s'amuser à l'infini, le reste est vraiment très limité. Donc évidemment là on n'est pas, il y a sans doute une part enfin le fantasme, de quel côté se trouve le fantasme, c'est là la question.
Une dernière question, ah oui là-bas.
Oui pardon. Moi, j'étais juste en train de réfléchir sur le rapport entre le risque et la liberté dont on avait parlé au début. Et je me disais si, en fait, le fait de vouloir cette sécurité à tout prix pour limiter les risques n'aseptisait pas, en fait, notre existence, à savoir qu'on perdait le sel de l'existence, comme disait Monsieur Spinrad tout à l'heure, du fait qu'en plus, on surenchérit sur le risque réel des choses. Comme on se coupe des choses pour ne pas en souffrir, on est complètement en décalage avec ce qu'on vit finalement. Et voilà, c'est une réflexion de cet ordre-là en fait.
Est-ce que l'un de vous veut rebondir sur cette réflexion ?
On en parlait depuis le début, quoi, de cette idée qu'effectivement, si on veut anticiper sur tous les risques, d'abord on n'y arrive pas, parce que, encore une fois, que ce soit nous-mêmes ou les êtres technologiques ou autres qui sont créés, vont comporter du simple fait que si vous créez de tout un tas d'êtres technologiques ou biologiques ou autres, mais l'interaction avec dans la réalité va faire que de nouvelles fonctions, de nouvelles choses vont survenir. Donc par définition, on peut pas le prévoir. Et effectivement, le vivre dans notre société, c'est également avoir envie de tester de nouvelles façons de vivre au monde et de se mélanger aux choses. Donc bon, ça fait partie de l'existence.
Alors simplement peut-être, est-ce qu'il y a une autre question ? On va peut-être boucler ce premier débat là. Ah oui, là-bas il y a monsieur.
Bonjour. Est-ce que vous diriez au regard de une grande partie des sujets des livres de science-fiction que la science-fiction c'est une littérature de la peur ?
Très bonne question, ça.
Oui et non. Je crois que la science-fiction, ce n'est pas nécessairement le fiction de peur, mais toute la fiction, toute la fiction qui marche, c'est une fiction de conflit. Et ce n'est pas un peur peut-être c'est pas un conflit dramatique. C'est une espèce de science-fiction dystopique. Ça, c'est la fiction de peur. C'est en science-fiction demi-comédique, de paranoïa, la comédie de paranoïa, la grande comédie de paranoïa, par exemple, de Philip K. Dick. C'est la fiction, la science-fiction utopique, et c'est pas de peur, mais on sait si, pour la plupart, c'est pas dramatique, ça marche pas comme fiction. Alors, c'est une question importante pour toute la fiction, pour comprendre la vraie chose. Sans un conflit, vous n'avez pas un vrai travail de fiction, une vraie histoire. Et sans une vraie histoire, c'est pas une bonne fiction. En cet sens, la science-fiction, c'est une fiction de peur, mais le thriller, le polar, le western, c'est le livre médical, c'est tout, c'est la même chose, en cet aspect.
Fabrice?
Moi aussi.
C'est intéressant parce que finalement, là, on parle que de science-fiction et finalement, le débat, il porte pas spécifiquement sur cette littérature-là, en fait. De fait, on parle de ça, mais c'est intéressant de voir aussi l'essor de la fantasy ces dernières années et tout le débat entre la différence entre la fantasy et la science-fiction, en ce que la fantasy, c'est une littérature, finalement, en tout cas, telle que la définissent les amateurs de science-fiction, comme une littérature un peu de repli passéiste et justement de sécurité. C'est-à-dire que, quels que soient les conflits que vous pouvez avoir dans un roman de fantasy, vous êtes à peu près sûr que le bien va l'emporter à la fin, hein, à part quelques exceptions près. On est dans des systèmes assez manichéens, où on comprend qui est le mal, qui est le bien, ce qu'il va falloir faire pour vaincre le mal. On sait que le mal va être vaincu à la fin, et on est dans des univers comme ça, fermés avec des histoires linéaires. Quelqu'un justement comme K. Dick a introduit dans la science-fiction cette sorte de notion de vertige par rapport à la réalité, qui fait que même la réalité, on peut pas s'accrocher, on peut plus s'y accrocher. Qu'est-ce que c'est la réalité? Voilà, c'est je suis vivant, vous êtes mort. On ne sait même pas finalement si, on le voit aussi dans Matrix, hein, si on n'est pas dans une réalité virtuelle, etc. Donc là, ça induit une... et c'est un risque contre lequel on ne peut pas du tout se prémunir. Il y a cette notion de peur. Moi, je pense qu'effectivement, en tout cas, la science-fiction, il y a ce côté peur et inquiétude par rapport à la fantasy qui serait plutôt une sorte de littérature refuge dans laquelle on nous raconte des belles histoires qui se terminent bien.
Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question? Eh ben, on va clore cette première table ronde par un sondage. Qui compte se faire vacciner contre la grippe A dans la salle? Deux. Vous avez le droit de lever la main, il n'y a pas de... Voilà. Merci beaucoup à tous.